La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ses portes. L'Éternel dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Pendant 6 jours, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville, une fois par jour. 7 prêtres, portant chacun un corps, fait d'une corne de bélier, précéderont le coffre de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri, et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. » Josué, fils de Noun, convoqua les prêtres et leur dit, « Chargez le coffre de l'Alliance sur vos épaules, et que 7 d'entre vous prennent 7 corps, faits de cornes de bélier, et marchent devant le coffre de l'Éternel. » Puis il dit au peuple, « En avant, faites le tour de la ville, et que les hommes armés précèdent le coffre de l'Éternel. » Le peuple fit comme Josué l'avait ordonné. 7 prêtres, portant 7 corps faits de cornes de bélier, passèrent devant l'Éternel et se mirent à sonner de leurs instruments, tandis que le coffre de l'Alliance suivait. Les hommes armés les précédaient. Une arrière-garde suivait aussi le coffre. Ils marchaient au son du cor. Josué avait donné cette consigne au peuple. Pas de cris, restez muets, ne dites pas une parole jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris. Le coffre de l'Éternel fit une fois le tour de la ville, puis tous rentrèrent au camp pour la nuit. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et les prêtres chargèrent le coffre de l'Éternel sur leurs épaules. 7 prêtres, portant 7 corps faits de cornes de bélier, se remirent en route devant le coffre de l'Éternel, en sonnant de leur instrument. L'arrière-garde, l'avant-garde les précédait, et l'arrière-garde suivait le coffre de l'Éternel. Ils marchaient au son des cors. Ils refirent une fois le tour de la ville ce jour-là, avant de regagner le camp. Ils firent ainsi pendant 6 jours, et le 7e jour, ils se levèrent dès l'aurore et firent 7 fois le tour de la ville de la même manière. C'est le seul jour où ils firent 7 fois le tour. La 7e fois, lorsque les prêtres sonnèrent du cor, Josué ordonna au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous livre la ville. » On sonna donc du cor. Dès que le peuple l'entendit, il poussa un formidable cri et le rempart s'écroula sur place. Aussitôt, les Israélites s'avancèrent à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi, et ils s'en emparèrent.
Non, ça n'est pas Eric ce matin, c'est moi. Je vous invite à prier tous ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui est si précieuse, qui est si belle, qui, au fil du temps, nous a laissé des trésors devant lesquels nous pouvons encore nous émerveiller aujourd'hui. Et nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous fais parce que dans d'autres pays de ce monde, eh bien, des hommes et des femmes aimeraient bien pouvoir avoir notre chance. Ils n'ont parfois qu'un Nouveau Testament, parfois que quelques bribes de ta Bible. Mais nous, nous avons cette chance d'avoir ta parole et ce matin encore, nous voulons la méditer, nous voulons nous mettre à ton écoute et rechercher ce que tu veux encore nous dire ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 1 an de ça, pile, j'avais parlé de Josué au chapitre 1. Josué, chapitre 1, c'est le moment où Moïse est mort et où Josué est consacré à sa place comme chef du peuple. et où il est chargé d'amener le peuple en terre promise. Et les mots forts de ce chapitre, dont vous vous souvenez peut-être, et dont vous avez peut-être fait votre devise pour cette année scolaire qui vient de passer, eh bien c'était « Sois fort et prends courage ». Mais ce matin, comme vous le voyez, je veux rester dans Josué, en cette période de rentrée scolaire et de reprise d'activité, mais je veux aller plus loin, nous emmener plus loin en étudiant, en relisant, en méditant à nouveau ce chapitre très connu de Josué 6 et de cette prise de Jéricho. Pour mémoire, pour se rappeler, après avoir eu une croissance démographique exponentielle sous l'esclavage de l'Égypte, eh bien, finalement, le peuple avait été libéré par Moïse que Dieu avait envoyé. Le peuple avait franchi la mer Rouge, dont Dieu avait, par l'intermédiaire de Moïse, séparé les eaux en deux pour que le peuple passe à sec. Et puis, une fois que le peuple était passé, Dieu avait refermé les eaux et les Égyptiens qui poursuivaient les Israélites avaient été engloutis en dessous. Et puis, le peuple s'était avancé dans le désert et au fil des rebondissements et des aventures, 40 ans d'errance se sont prolongés dans le désert. Et puis voilà que petit à petit la terre promise se rapproche et voilà nous sommes au moment où les choses arrivent. Moïse meurt, Josué prend sa place, le peuple s'apprête à traverser le Jourdain. Là encore, Dieu sépare les eaux, cette fois-ci par l'intermédiaire de Josué. Le peuple passe à sec et puis se retrouve enfin, ça y est, sur la terre promise. Oui, mais voilà, le problème, c'est que la terre promise n'est pas une terre vierge. Elle est occupée par de nombreux peuples, plus forts et plus armés les uns que les autres, avec des villes et des forteresses plus imprenables les unes que les autres. Autant d'obstacles sur le chemin de la conquête du peuple d'Israël. Et nous aussi, peut-être, sommes-nous confrontés à des obstacles, à des difficultés diverses et variées dans notre vie, à l'orée de cette nouvelle année scolaire. Deuil, maladie, chômage, éducation des enfants, accompagnement des aînés, difficultés relationnelles avec peut-être nos collègues de travail ou nos voisins. Je pense que nous avons ainsi chacun des obstacles qui se dressent devant nous. Et sur le plan communautaire aussi. Cette nouvelle année scolaire, avec la reprise des activités de l'Église, eh bien, ce peut se présenter à nous avec des difficultés et des défis à relever. Parce que la vie de l'Église n'est pas un long fleuve tranquille, et nous le savons encore plus qu'avant, depuis quelques semaines, depuis le départ brutal de notre frère Marc, qui a laissé un grand vide au milieu de nous. Et pour plusieurs d'entre nous, au moment de reprendre, et nous en avons parlé, partagé lors du conseil cette semaine, pour plusieurs d'entre nous, eh bien, c'est encore le temps de la stupeur, peut-être de la colère, de l'abattement, ou bien de la peur qui prédomine et qui nous laisse comme un peu hébétés, entre guillemets, au moment de reprendre la route, au moment de reprendre les activités, en se demandant, mais où allons-nous, en entreapercevant peut-être ces difficultés qui arrivent. Alors, dans quel état d'esprit eh bien, les Israélites vont-ils aborder, quant à eux, eh bien, ces obstacles qui se dressent devant eux? Et premièrement, eh bien, la grande ville des palmiers, Jéricho. Leur père, eux, avait exploré le pays promis du temps de Moïse. Moïse avait envoyé, alors qu'ils étaient encore dans le désert, des espions. Et voici ce que les espions avaient dit quand ils étaient revenus pour faire leur rapport au peuple. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Au moment d'affronter l'obstacle Jéricho. Comment le peuple hébreu allait-il réagir ? Allait-il soudain baisser les bras en voyant les premiers obstacles ? Devant une réalité devenue concrète, devant des défis devenus non plus des rêves à réaliser, mais des réalités bien tangibles, allait-il avoir une prise de conscience qui les fasse renoncer, comme leurs ancêtres ? Certes, ils ont un nouveau chef, mais l'absence de Moïse et de son charisme ne vont-ils pas leur manquer au moment de trouver les forces d'affronter les premières difficultés de la terre promise ? Et nous ? Nous, quand les obstacles, les difficultés apparaissent sur notre chemin et qu'ils se dressent devant nous, comment réagissons-nous ? Nous décourageons-nous et baissons-nous les bras ? Pour le peuple d'Israël, il y avait de quoi le faire à première vue, parce que c'était quand même un peuple nomade et qui sort de plusieurs années, plusieurs décennies même de désert, pour tenter de s'emparer de la ville des palmiers, Jéricho, avec ses hautes murailles. Et pour nous aussi, les raisons de nous décourager peuvent être légitimes et compréhensibles. Mais revenons alors maintenant un peu en arrière. Avant d'arriver à Jéricho, le peuple avait franchi le Jourdain, comme je vous l'ai dit. Et Dieu, par l'entremise de Josué, avait donc séparé les flots pour permettre à son peuple de passer à sec. Or, cela fait, voilà ce que nous pouvons apprendre dans le texte biblique. Tous les rois des Amorites qui étaient à l'ouest du Jourdain et tous les rois des Cananéens qui étaient près de la mer apprirent que l'Éternel avait desséché l'eau du Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'ils aient traversé. Alors, ils furent démoralisés et plus personne n'eut de courage à cause des Israélites. Et quand Josué, une fois rentré en terre promise, avait envoyé des espions à Jéricho, voici ce que Rahab, la prostituée qui les avait cachés, leur avait dit. « Je sais bien que l'Éternel vous donnera le pays et que vous nous inspirez de la crainte. Tous les habitants du pays sont découragés à cause de vous, parce que nous avons appris comment l'Éternel a desséché devant vous les eaux de la mer Rouge quand vous avez quitté l'Égypte. Et nous avons appris ce que vous avez fait aux deux rois des Amorites, Sihon et Og, que vous avez exécutés de l'autre côté du Jourdain. Quand nous en avons entendu parler, cela nous a démoralisés. Et à cause de vous, plus personne n'a de courage. Car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. » Voilà un premier enseignement attiré de ce passage de Jéricho. Dieu prépare tout. Il s'occupe de nous. Parfois, Dieu ôte les difficultés de notre route, sans que nous nous en apercevions peut-être. Mais nous, il ne nous laisse pas quand les difficultés sont quand même là. Nous, il ne nous laisse pas démunis, désemparés face à ces obstacles, face aux défis de notre vie à relever. Dieu prépare aussi pour nous les conditions pour y arriver, pour être victorieux. La victoire est à portée de main pour les Israélites. Toutes les conditions sont réunies pour qu'ils puissent s'emparer de Jéricho sans trop de difficultés. D'autres défis vont les attendre plus tard par la suite et qui seront peut-être moins faciles à gagner. Mais quel que soit l'obstacle devant eux, ils savent maintenant qu'ils ne sont pas seuls et que Dieu prépare le terrain comme un éclaireur et qu'il veille sur eux. Les soucis, les épreuves, les obstacles que nous traversons peut-être aujourd'hui peuvent nous paraître insurmontables. Mais ce texte nous invite. Il nous invite à jeter sur nos vies un regard de foi, ayant la paisible assurance que Dieu prépare tout, qu'il s'occupe de nous, individuellement et collectivement. Alors maintenant que le contexte est posé, les conditions réunies, il faut quand même monter à l'assaut de Jéricho. Quelle stratégie suivre ? Escalader les murailles ? Faire une brèche dans une porte ou dans une partie de la muraille pour y pénétrer ? ou bien encore mieux, faire un tunnel qui ressortirait de l'autre côté de la cité pour pouvoir y pénétrer. Eh bien, il se trouve que ce n'est aucune de ces manœuvres que Dieu a choisies. C'est un tout autre plan qu'il a pour qu'Israël pénètre dans la ville des palmiers. Faire le tour de la ville en silence, devant et derrière l'arche de l'Éternel et en sonnant continuellement du cor. N'est-ce pas une étrange stratégie militaire ? Et puis le dernier jour, eh bien finir un septième tour de la ville en poussant des cris et la muraille s'effondrera. Difficile à croire, n'est-ce pas ? En tout cas, ce qui m'impressionne dans ce passage, c'est la confiance et l'obéissance de Josué, premièrement, et du peuple aussi, dans tout ce que Dieu leur demande de faire. Leurs aînés, eux, qui étaient dans le désert, auraient peut-être déjà contesté et murmuré contre une telle stratégie. Mais la réaction du peuple m'étonne. Pas une plainte, pas une contestation, pas l'ombre d'un doute ne transparaît en tout cas du texte biblique. Et le peuple va obéir à la lettre à ce que Dieu va lui dire, et cela va marcher. Quelle confiance, quelle simplicité et quelle authenticité dans la foi d'Israël. Et lorsque des épreuves surviennent dans notre vie ou que des obstacles se dressent sur notre chemin, Dieu semble vouloir nous faire prendre parfois des chemins étranges et utiliser des moyens qui nous semblent inappropriés à la situation. Dans ce cas, quel est notre réflexe ? En bon français, déjà premièrement, nous risquons bien de contester, de râler, de remettre en cause le chemin par lequel Dieu veut que nous passions ou les moyens qu'il veut que nous utilisions. Nous n'aimons pas, moi le premier, être délogé de notre routine, de nos habitudes, pour être bousculé, sorti de notre routine, de notre zone de confort, remis en cause. La routine et les habitudes que nous avons instituées, le conformisme dans lequel nous nous sommes inscrits, on nourrit notre hippopotame moi. Il nous donne l'illusion que nous sommes devenus invulnérables, que rien ne nous arrivera. Il nous conforte dans notre idée que nous sommes capables de nous en sortir tout seuls, très bien, et que nous maîtrisons tout. Mais quand l'imprévu se produit, quand l'épreuve survient et les moyens d'y faire face avec, cela nous déstabilise. Cela nous bouscule, nous perturbe, cela met à mal tous nos repères et nos certitudes, et surtout, elle nous met face à nos faiblesses et nos vulnérabilités que l'hippopotame moi, lui, s'efforçait si bien de cacher. Dans ces moments de flottement dans notre vie, où nous ne savons plus où nous en sommes, il n'est pas rare que nous nous agitions pour trouver le meilleur moyen justement de surmonter l'obstacle devant nous, le défi, l'épreuve qui est là. Et Dieu nous laisse faire, et il nous garde, jusqu'à ce que nous réalisions que sa volonté, son projet pour nous, le chemin qu'il veut que nous empruntions et les moyens qu'il veut que nous utilisions, soient les seuls à être utilisés, et car ils sont les meilleurs, parce que ce sont les siens. Chaque épreuve, chaque difficulté est une invitation nouvelle que Dieu nous adresse pour vivre à son diapason. Vous savez, le diapason, c'est cet outil qui, quand on le fait vibrer, donne le « la » en musique. En obéissant avec simplicité à Dieu, le peuple se mettait au diapason de Dieu. Le peuple se mettait au diapason de Dieu et la musique qui en ressortit fit tomber les murailles de Jéricho. Dans les circonstances douloureuses, nous aimerions être ici. Ici, là, dans ce ici rassurant, sécurisant, connu, douillé. Mais Dieu nous invite à être là. Là où il nous veut. Lui sait pourquoi. Dieu nous appelle à sortir de nous-mêmes, de cet hippopotame moi, bien installé confortablement dans ses certitudes et ses habitudes, pour se consacrer tout à nouveau à lui. C'est le pas de la foi. C'est le combat de la foi qui nous pousse à faire confiance à Dieu et à lui obéir simplement. Les Israélites ont justement obéi à Dieu. Ils ont fait tout ce qu'il a demandé, au détriment de toute logique guerrière. Et à la fin du tour final, ils poussent des cris et la muraille s'écroule. Je reste quand même étonné devant ce récit. Est-il possible que les sons du cor et les cris aient pu faire tomber, humainement parlant, la muraille de Jéricho? C'est possible. Mais j'aime aussi à y voir la main de Dieu. Dieu qui permet le miracle de la délivrance. Le peuple a fait sa part, il a obéi, il a fait confiance à Dieu, il a mis en marche sa foi. Alors Dieu répond à son tour à l'association de la foi à son tour en faisant tomber les murailles. C'est l'association de la foi du peuple et de la grâce de Dieu qui a eu raison des murailles. Ainsi, Dieu est partout. Même si ce n'est pas une règle absolue, et j'insiste là-dessus, c'est Dieu qui permet qu'une épreuve ne nous soit pas ôtée. C'est lui qui organise les conditions pour que nous puissions surmonter l'obstacle. C'est lui qui nous donne les moyens de la franchir. Et c'est finalement lui qui ôte la difficulté de notre vie quand nous avons mis notre foi en action. Ça n'est pas une règle absolue, mais souvent cela arrive. Et nous voyons ainsi que là où nous pensions avoir le contrôle, la maîtrise de notre vie, eh bien c'est Dieu qui en a le contrôle total. Et finalement, eh bien c'est rassurant. Parce que lorsque nous regardons à nous-mêmes, honnêtement, nous devons bien convenir que nous sommes faibles, impuissants, vulnérables, anxieux, facilement découragés. Et si tout dépendait de nous, il y a bien longtemps, eh bien que les obstacles de notre vie auraient eu raison de nous. Mais Dieu est là. Il nous aime. Jésus est mort sur la croix pour nous et nous avec lui. Et Jésus est ressuscité pour nous faire rentrer dans une vie nouvelle dont nous ne sommes finalement qu'au balbutiement. Et comme Dieu nous aime, il n'a jamais cessé de s'occuper de nous, de prendre soin de nous garder, de nous protéger. Tout ceci met en relief une nouvelle fois ce verset que l'apôtre Paul a reçu alors et qu'il aurait bien, alors vous savez, il avait cette écharpe dans la chair qu'il aurait bien voulu que le Seigneur lui enlève, et la seule réponse qu'il a eue après avoir demandé à plusieurs reprises, c'est « Ma grâce te suffit ». Quand j'ai préparé ce texte, c'était dans la deuxième quinzaine de juillet. Et je me disais dans ma tête, c'est un texte qui est fait pour encourager l'Église et chacun de ses membres. Et puis, le texte m'a rejoint le 31 juillet. Le 31 juillet, j'avais rendez-vous chez mon ophtalmo pour la visite habituelle. Et puis, il me dit, Monsieur Brèche, je suis désolé, mais la dégénérescence de votre cornée se poursuit. Et là, moi, je ne peux rien faire. Il va falloir que vous alliez consulter le spécialiste de la cornée en France à la Fondation Rothschild à Paris. Alors, bon, je m'y attendais un peu, parce que avant d'aller le voir, eh bien, je voyais bien dans la rue que quand je voulais traverser, les voitures, elles étaient floues. Que quand je venais ici, eh bien, les cantiques, en étant en troisième rang, j'arrivais plus à les lire. Donc le diagnostic ne m'a pas étonné. Mais comme à chaque fois, en sortant, les questions se sont bousculées dans ma tête. Mais jusqu'où cette dégénérescence va se poursuivre? Est-ce que je vais arriver à un point où je ne vais plus voir? Est-ce qu'il y a des opérations qui existent? Est-ce qu'elles vont réussir? Est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler normalement? Est-ce que je vais devoir changer de travail, arrêter de travailler? Plein de questions comme ça, qui se bousculent, qui m'étaient déjà arrivées aux visites précédentes. Et puis, eh bien, bon, d'abord, il faut reconnaître qu'il m'a donné un collyre hospitalier qui m'a fait du bien et qui m'a redonné un peu de confort. Et puis surtout, durant ce mois d'août, j'ai continué à méditer ce texte. Et ce verset m'a rejoint. « Ma grâce te suffit. » Et le matin, quand je me lève et que j'ai les yeux en vrac et que je ne sais pas où je vais, qu'est-ce que ça va donner, si je vais pouvoir travailler correctement ou pas, eh bien, je me dis ce verset, « Ma grâce te suffit ». Et la journée se passe. Et à la fin de la journée, eh bien, c'est un moment de reconnaissance. Merci Seigneur, oui, aujourd'hui, ça n'a pas tous les jours, tout le temps été facile, mais ma grâce, ta grâce m'a suffi. Et je veux te remercier parce que aujourd'hui encore, tu as été fidèle, tu avais tout préparé, tu as pris soin de moi, tu as été avec moi, ta grâce m'a suffi. Et ma prière, mon souhait pour chacun de nous, ensemble et individuellement, c'est que nous puissions avoir ce même élan de dire chaque jour, ma grâce t'a suffi. Alors, en conclusion, à l'aube de cette nouvelle année scolaire, eh bien, je vous invite à puiser peut-être dans les enseignements de ce texte. Peut-être à faire de ces quelques phrases que j'ai affichées, eh bien, une sorte de devise pour cette année scolaire qui vient, que nous pourrions peut-être coller sur notre frigidaire et que quand nous allons ouvrir, nous allons voir et ça va nous faire un rappel et ça va nous motiver, nous encourager pour cette journée qui arrive. Dieu s'occupe de tout. Il s'occupe de moi. Dieu m'appelle à vivre à son diapason, aujourd'hui, demain. Ma grâce te suffit. Prions. Seigneur, ta grâce nous suffit. Pardonne-moi, pardonne-nous si nous pensons que nous sommes comme invulnérables, que nous sommes capables de tout contrôler, tout maîtriser, parce que nous pensons que nous allons toujours arriver à nous en sortir. Pardonne-moi parce que des fois je manque de foi, parce que à l'inverse, quand les difficultés sont là et que les épreuves s'accumulent, j'ai tendance à me décourager et à croire que plus rien ne va arriver, que tout est perdu. Merci Seigneur pour ces versets, pour ce texte de ce matin. Oui, rappelle-moi, rappelle-nous que tu prépares tout. Tu as le contrôle de notre vie. Tu veux prendre soin de moi, tu veux prendre soin de chacun de nous, là où il en est, dans sa vie, sur son chemin, dans la joie et dans la difficulté, tu es là et ta grâce nous suffit. Ta grâce me suffit. Merci Seigneur pour cela, pour ton amour qui nous accompagne chaque jour, pour ta présence, même des fois en retrait, mais qui est là et qui fait que tu nous accompagnes et que tu ne nous laisseras jamais, que tu ne nous abandonneras jamais. Merci de nous encourager, de nous redonner des forces nouvelles au moment de repartir dans cette nouvelle année scolaire avec ses activités, que ce soit chacun d'entre nous, là où nous sommes, dans nos familles, dans nos foyers, ou bien ici, tous ensemble, en communauté. Que ton Saint-Esprit, ton Esprit Saint vienne nous renouveler, nous encourager puissamment, nous consoler, nous exhorter, et que ensemble, eh bien, nous puissions, à l'image du peuple d'Israël, eh bien, conquérir la terre promise qui est devant nous et que tu as placée devant nous. Que cela puisse être une année nouvelle où tu prépares tout et où tu vas nous aider à franchir les obstacles et à relever les défis qui sont encore devant nous. Amen.